France Inter. Un jour dans le monde.
Julia qui nous donne chaque semaine des nouvelles des femmes dans le monde et de la planète LGBT. On commence avec la question de la semaine.
Pourquoi les mères sont-elles plus fatiguées et plus stressées que les pères quand elles s'occupent de leurs enfants ? Si, on se pose très sérieusement la question, surtout à l'université de Pennsylvanie, un état comme on sait totalement dépourvu de parents et d'enfants, qui aurait pu éventuellement leur donner quelques éléments de réponse. En l'absence donc de cas réels à disposition, les chercheurs ont commencé par se demander qu'est-ce que s'occuper d'un enfant ? Décidément totalement hors sol, les chercheurs ont bien compilé une série de tâches éducatives que je vous épargne, tout le monde sachant grosso modo à quoi ressemble la journée d'un parent. On passe directement à la deuxième question de l'étude. Qui fait quoi ? Je vous le donne en mille et mille. Non seulement les pères se tapent la plus grosse partie du boulot, mais en plus les tâches ingrates sont pour eux pendant que madame joue au squash. C'était pour voir si vous suiviez.
Oui, je suis.
Il semblerait bien que les pères s'adonnent plus volontiers aux activités de loisirs en fin de semaine quand les mères, elles, sont davantage impliquées toute la semaine dans des activités liées aux soins et aux transports. Mais non, dinguerie.
Il y avait des guillemets là, donc.
Franchement, cela dit, on atteint les sommets avec la troisième question. Une sortie familiale au terrain de jeu n'ayant par exemple pas le même impact sur l'humeur que changer des couches au milieu de la nuit, se pourrait-il que cette répartition des tâches influe sur l'humeur de chacun ? On leur répond, Fabienne ? Non, pas le temps. Dernière question d'une enquête décidément collector. Cet équilibre communément observé dans la plupart des familles étudiées résulte-t-il d'un choix personnel ou bien de contraintes extérieures au couple parental ? Eh ben alors là, ils savent pas. Ils sont même un petit peu embêtés, les chercheurs, parce que quand ils interrogent les pères, vraiment, vraiment, les pères aussi auraient envie de changer les couches en pleine nuit, c'est juste qu'ils ont des contraintes extérieures et professionnelles. Eh ben voilà, c'est ça.
Allez, on enchaîne avec le pronom de la semaine.
Répétez après moi, Fabienne, oui, ce soir, je joue un petit peu avec vous.
Oui.
They.
They.
Ok, they.
Pronom personnel, troisième personne du pluriel, jusqu'ici, le Merriam-Webster, dictionnaire américain de référence, vient d'y entrer un second usage. Il désigne désormais une personne ne se sentant ni homme ni femme, voulant échapper à la traditionnelle binarité du genre. Une évolution qui suit de près celle qu'on a pu observer cette année dans quelques villes des États-Unis où l'on peut, sur ses papiers d'identité, cocher une case neutre. Quand on ne veut ni d'un F ni d'un M, la société évolue, la langue doit s'adapter, soutiennent les partisans de ce nouveau day. Et moi, j'en connais certains qui doivent surtout s'en étrangler.
Mais vous avez pire pour eux, je crois.
Ah, mais j'ai toujours vous en pire, prie. Évidemment, pour vous, dans ma besace, ce sera mon objet de la semaine. Pour finir, le soixantenaire de Barbie en beauté, Mattel lance une toute nouvelle gamme de petits cousins ou cousines, ou ce que vous voulez, en fait, parce que ces six poupées de ce Creatable World sont neutres, contrairement à leur aîné, dont la silhouette fuselée a pu rendre anorexique les trois quarts de la planète. Le quart restant hésitant encore entre boulimie et dépression, ces petites nouvelles ont la morphologie moyenne d'un enfant de 7 ans, entendez, sans signe distinctif du masculin et du féminin. Et je vous vois venir, Fabienne, ne me parlez pas de ce qu'il y a dans le slip. Ken non plus n'avait rien dans son slip. Bref, on a dit pas de signe distinctif. Et vendu avec un kit qui permet de leur donner des cheveux courts ou longs, des vêtements de fille ou de garçon, en fonction de l'envie du moment. Alors oui, on pourra toujours taxer Mattel d'un chouille d'opportunisme, mais ce serait oublié. Et croyez-moi, ça m'arrache la bouche de le reconnaître, qu'ils ont été les premiers à faire une Barbie présidente, une Barbie informaticienne, une Barbie en hijab. Cela dit, moi, tant que j'ai pas eu de communiqué officiel où Mattel reconnaîtra enfin que Barbie était avec Skipper et que ce débile de Ken n'était qu'une couverture, je garderai mes distances.
Non, attendez, Skipper, c'était sa sœur.
Non, moi, je vois très très clair dans leur jeu à ces deux petites greluches.
Allez, on termine en beauté avec votre femme de la semaine, Julia.
Penélope Cruz, évidemment. L'actrice espagnole était hier sur la scène du Festival du film de Saint-Sébastien, rappelant que dans son pays pourtant en pointe sur les questions de violences faites aux femmes, 44 avaient encore été tuées cette année, soit un millier de femmes victimes de violences conjugales en 10 ans. Elle enchaîne.
J'aimerais que quand une femme trouve la force surhumaine et nécessaire pour dénoncer ce qu'elle vit dans une telle situation, on l'écoute, mais qu'on l'écoute tout de suite, pas quand il est déjà trop tard. Merci beaucoup.
Voilà, moi j'ai rien à ajouter, vous ?
Ben non, Penélope Cruz, Julia Foyce, même combat.
Ben
allez,
voilà.
À la semaine prochaine.